ministre responsable de la capitale nationale. Sozanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée nationale. Julie Vignola, députée fédérale Beauport-Limoilou. Et Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec.
L'émission Fahrenheit 89.1 vous est présentée par le Cinéma Le Clap, diffuseur d'œuvres cinématographiques internationales et québécois depuis 35 ans.
En direct de la 3e avenue et en pleine heure de trafic, on se diminue tranquillement, pas vite, mais bref.
Mais si on rejoint les gens dans leur voiture, c'est tant mieux, on est là pour leur dire quoi lire,
à
quand ils vont rentrer à la maison.
À pied ou en vélo, Monsieur Bérubé, bonsoir.
Bonjour Pierre Blais, comment ça va?
Ben voilà.
Qu'est-ce qu'on écoute Fahrenheit 89.1
sur les ondes de CKRL. Notre émission aujourd'hui portera comme à l'habitude sur la littérature et le cinéma. Luc Lafontaine. Ah ben non, on commence avec Cédric.
Ben ouais, ben là
je l'avais dit avant qu'on entre en nom.
on va respecter le tour de table.
On va commencer cette émission dans quelques minutes avec un invité.
Avec Stéphane Ledien qui a signé les corps sur la neige. Pierre, est-ce que tu sais c'est quoi un cordiste?
Pas du tout.
C'est un personnage important. Il y a un personnage important dans le roman qui est cordiste. On a déjà vu travailler dans le Vieux-Québec, sur les toits, après les tempêtes de neige, pour déneiger les toits.
Ah, bien sûr.
Alors, c'est un personnage du roman noir, L'écorce sur la neige, les cordistes.
J'avais jamais entendu le terme.
Il y a un super court-métrage de J. Piscinine qui a été tourné à Québec sur les toits de la ville de Québec, qui sont extraordinaires.
Ça vous a inspiré, Stéphane Ledien?
Très inspirant. Mais ce qui m'a inspiré, c'est surtout quand je les voyais faire chaque hiver dans le Vieux-Québec. Là, c'est impressionnant.
T'avais le vertige, Stéphane.
J'avais le vertige. Et même en les regardant d'en bas, j'avais le vertige.
Alors, Stéphane leur a même inventé presque un côté, je dirais pas ninja, mais disons SWAT. On a droit à un cordiste extrêmement bien entraîné.
Stéphane va
comme personnage central de Les corps sur la neige.
Stéphane va nous parler de tout ça. Je me suis permis de le tutoyer parce que c'est un ancien chroniqueur de cette émission lors de son ancienne appellation.
Ah ben, je l'ignorais.
Autre vie. Cela dit, Luc Lafontaine, lui, va venir nous parler du documentaire Malartic qui prend l'affiche demain sur justement l'exploitation minière à Malartic. C'est un drôle de bon documentaire, assez révoltant même par moment par ce qui est dit dans ce film. André-Pierre, côté essai.
Moi, je suis encore dans les Stéphane Garneau avec Le choix de se taire, une toute petite plaquette chez XYZ.
Auteur radio-canadien.
Animateur que vous avez sûrement entendu dans
Fils
toutes sortes de ces...
Richard.
Je l'ignorais, moi en fait, mais je sais que c'est un passionné de sport, mais voilà, vous m'en apprenez beaucoup. Ceci dit, on va parler de son essai qui vient tout juste de sortir, Le choix de se taire, pour contrer le bruit incessant de la machine à opinion.
Et un qui se taira pas, c'est André Caron.
Non, vraiment pas.
Série Prime.
Oui, série Prime, Fallout, basée sur un jeu vidéo, une série qui est produite par le couple qui a fait Westworld, Jonathan Nolan, le frère de l'autre. Mm-hmm. Sa promesse est assez surprenant quand même, je m'attendais pas à ça pour une adaptation de jeu vidéo.
Post-apocalyptique.
Mais rétro-futuriste.
Voilà, vers 18h20, dans un instant, l'entrevue avec Stéphane Ledien.
De film noir, ça.
Ça convient très bien, Stéphane.
Bonjour, Stéphane Ledien.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci. Et vous?
Ben, ça va très bien. Merci d'être avec nous donc, pour la sortie, il y a quelques semaines, de L'écart sur la neige chez Robert Laffont, mais bientôt, le 2 mai, il va sortir en France aussi.
Exactement, sorti en France, même en Europe francophone, le 2 mai, donc c'est pour bientôt, donc on reste sur les dents. Là.
Bon, alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous dites que vous écrivez des nouvelles et des romans fortement teintés de noir, donc ça peut être autant du policier que d'autres styles, mais c'est toujours très très sombre, très noir vos romans, vos écrits. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en vous?
Bah, la dimension policière, elle est dans un certain nombre de récits, effectivement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, quand on se penche par la fenêtre de chez soi, pas trop haut, pas trop fort pour pas tomber, évidemment,
on voit.
On constate que le monde ne tourne pas toujours très rond, et donc, en tant qu'écrivain, on se dit, ben, ça serait intéressant d'utiliser tous ces aspects. Donc, jouer avec toutes les malversations de ce monde, les crimes et délits.
Parti avec quelque chose qu'on connaît bien, en fait, 2012, on commence en 2012, hein, le roman, c'est en marge de la commission Charbonneau, il y a un journaliste français qui est assassiné dans sa chambre d'hôtel du centre-ville de Montréal, quelqu'un qui vient couvrir les audiences de la commission Charbonneau. Vous nous ramenez dans un moment de l'histoire, on le visualisait pas encore tout à fait, le Parti québécois vient juste d'arriver au pouvoir, c'est un automne tendu pour le Québec, et là vous avez tisser une histoire autour de ça.
Ouais, je suis parti de la commission Charbonneau pour en faire, non pas un roman en tant que tel, mais une trame qui me permettait de rebondir sur les thèmes de la corruption, la mafia, crime organisé, mort à répétition. Donc, somme toute, c'est une toile de fond. Mais sur cette toile de fond, je projette des personnages, parce que c'est les personnages qui font vivre l'histoire, et c'est les personnages qui vont faire vivre les émotions fortes au lecteur, personnages qui sont au nombre de trois. Hein. Il y a une journaliste américaine, voilà, qui vient du New York Times, en fait, puisque le
Riley.
Times... Ouais, c'est ça, Riley Lewis, en fait, le New York Times a vraiment couvert la commission Charbonneau. Un journaliste français, bon, lui, on l'a dit, il va pas faire long feu.
Non, c'est ça. Je pense pas vendre de punch. Je pense que c'est même la première phase du quatrième de couverture.
Et puis, deux autres personnages. L'autre héros du roman avec Riley Lewis, c'est Martin Thériault, un déneigeur de toit du Vieux-Québec, qui est cordiste de métier. Donc, un cordiste, c'est quelqu'un qui travaille sur les toits et sur des chantiers en hauteur. Souvent, ce sont des férus d'escalade, des montagnards, etc. Et un troisième personnage qui correspond un peu au point de vue moral ou un peu à l'éthique du lecteur, qui est de Gabriel Beaumont, un lieutenant détective de la police de Montréal qui enquête sur tous les crimes. Alors, il semble avoir un temps de retard un peu sur les autres personnages, mais en fin de compte, il est cette caution morale et cette équité dont on a besoin. Alors, Riley Lewis est sympathique, elle est sexy, elle est intelligente.
Mais elle est explosive, Martin Thériault, faut que ça aille vite, tout ça. Et Martin que vous nous avez décrit, qui est un cordiste, mais qui est un ancien chasseur alpin, stress post-traumatique.
Ouais.
Ça se mêle aux émotions qu'il va vivre quand il va tomber sur un moment d'action là-dedans. Donc, un Français des banlieues de Paris. Vous êtes un Français des banlieues de Paris, à moins que je me trompe. C'est quoi la part de... Est-ce que c'est votre histoire à vous qu'on raconte?
Moi, j'ai le vertige.
Est-ce que vous avez ça de caché en vous?
Moi, j'ai le vertige. Je suis nul en escalade. Donc, je suis bon en escalade écrite. Pour décrire l'escalade des événements ou de la violence, mais pas pour l'escalade physique. Par contre, Thériault était chasseur alpin, tireur d'élite. Il vient pas de la banlieue parisienne, il vient de Saint-Étienne, dans une cité à Saint-Étienne, donc en région, pas de problème, Auvergne. Et donc, les montagnes, ça le connaît, parce qu'il a grandi avec ça. Il y a tout un passage où on explique sa lubie pour les montagnes et l'escalade.
Mais tu aimes quand même les hauteurs, parce que déjà dans ton livre sur les tracelles, la série de nouvelles, il y avait déjà des questions de sauter à partir du tracelle qui est quand même
le
pas...
Le tracelle de Cap-Rouge.
Oui, qui est à la même hauteur que le premier étage de la Tour Eiffel. Donc, c'est quand même intéressant.
Ça revient dans l'œuvre, cette notion-là de vertige.
Puis aussi, je trouve que ça ressemble beaucoup, mais je te l'ai dit tantôt, mais je vais le dire au public aussi. Ça, je trouve le style là-dedans, puis l'intrigue elle-même, la façon dont c'est tissé, ça me rappelle beaucoup les romans de Lee Child sur Jack Reacher, là, qu'on a vu, la série qu'on a vue sur Prime Video.
Avec Tom Cruise qui l'a interprété au cinéma.
Deux films, Tom Cruise aussi. Mais tu sais, Tom Cruise mesure 5 pieds 6, puis l'autre mesure 6 pieds 5.
C'est pas le même, tout à fait différence. La même histoire comme ça.
Mais ça rappelle ce style-là parce que
c'est
à Cap-Rouge puis à Québec, la façon dont c'est présenté, les événements, tout ça, on croirait une intrigue de Jack Reacher.
Ben, c'est un compliment.
Oui, tout à fait. Ben, savez-vous, moi, dans le rythme, ce que j'ai reconnu du Frédéric Dard. J'ai reconnu un peu, en plus, le côté un peu, ben, vous êtes français, ça se lit, ça s'entend dans vos, dans le texte, même si ça se passe à Cap-Rouge, même si ça se passe dans le comté de Portneuf, à Montréal.
Rappelons que Dard, c'est San Antonio.
Oui, c'est ça, Frédéric Dard, donc San Antonio, mais surtout dans le rythme, ça va vite, il se passe de l'action, ça niaise pas, là. Est-ce que, ce genre de littérature-là, c'est vraiment une nourriture pour vous?
Oui, cette littérature de l'action, de le roman noir, mais avec beaucoup de scènes d'action, de toujours mêler action, contemplation, action, détente, contemplation, des moments de tension. Et ensuite, on va avoir des moments où ça se relâche et ça repart. Et puis, grande influence cinématographique, évidemment, cinéma d'action, cinéma de genre un peu, donc film noir, mais aussi le côté... pas horreur, parce que j'écris pas de l'horreur, mais toujours ramener les sensations fortes. Donc, ça ramène à la question du vertige, là, que j'ai évoqué tout à l'heure, où donc, moi, je monte pas trop sur les hauteurs, mais j'aime décrire finalement des sensations vertigineuses, y compris par rapport au stress.
Il faut les ressentir pour être capable de bien les décrire.
Et aussi la question de l'adrénaline, finalement. Elle traverse tout le roman. C'est pour ça que j'espère que les lecteurs vont être eux aussi accrochés à leur siège ou vont pas vouloir, en tout cas, en descendre trop vite pour la lecture. Mais c'est à la fois trouver des émotions fortes, même des émotions de la question de la tendresse et de l'amour, et dans le roman quand même, avec des personnages féminins, et des émotions où il y a cette... On a tous une colère sourde, hein, en nous parfois, à cause de ce qu'on peut constater dans les médias ou des situations. Et Thériault est un peu aussi la manifestation, c'est cette colère qui devient action. Donc, vaut mieux avoir faire des actes de violence à ces personnages que les faire soi-même, n'est-ce pas? Donc, on peut bien s'amuser.
C'est comme ça que lui le vit. Ouais. Quand, vous êtes arrivé en 2010 au Québec. La commission Charbonneau, c'était en 2012. Ouais. Ça vous avait marqué déjà à ce moment-là? Vous avez dit, c'est de la matière à roman déjà en 2012, vous le sentiez?
En 2012, je travaillais sur un autre roman qui est sorti en 2015. Mais en 2017, pour faire une histoire rapide, là, on habitait Cap-Rouge à l'époque. J'avais assez rapidement fini de peinturer les galeries dehors, toutes les pièces dans la maison, et fallait que je me trouve un passe-temps. Alors j'ai fait un doctorat en études littéraires, et pendant mon doctorat,
certains diraient plutôt une torture, c'était soit
un stage de parachutisme. Et donc, je trouvais que le doctorat, c'était plus facile et moins risqué. Et donc, je me suis dit...
Surtout si ton stage commence en sautant du tracel.
Exactement. Je me suis dit, ça, je peux l'écrire, mais pas le vivre. Donc, dans le cadre de mon projet doctoral, j'avais un projet de création. Et en me penchant sur qu'est-ce que je pourrais écrire qui soit un peu symptomatique ou ancré un peu dans le Québec. Le Québec a cette image d'une province qui serait peut-être plus corrompue que les autres, une image qui n'est pas vraie. On aime à dire que
avait été d'accord c'est ça. Avec vous avec son bonhomme carnaval
sauf qu'on se rend compte
qui marche très bien, c'est un cliché qui marche très bien.
La corruption est un sujet universel, mais je me suis dit je veux m'appuyer dans le roman noir, j'aime le côté politique, j'aime le côté social, et pour moi c'était un très bon catalyseur de me servir de ça. Ça permettait aussi d'écrire une histoire où tu reviens 10 ans en arrière, un peu moins quand je l'ai écrit, mais où avec le temps on sait que ceux qui s'en souviennent plus pourront le revivre, et ceux qui ne l'ont pas vraiment vécu ou de loin ou même en Europe pourront se dire on a aussi des grands jurys au Québec, c'est comme aux États-Unis, et on est capable de questionner, parce que la France n'a pas fait ce questionnement-là sur la corruption par exemple.
André?
Mais ça permet aussi de prendre une distance par rapport à un événement dans lequel quand on patauge dedans, on ne porte pas trop attention, mais c'est après que là tu peux tirer des conclusions, puis je pense que c'est ce qui arrive avec...
Mais il y avait des ingrédients dans la commission Charbonneau, il y avait des fonctionnaires corrompus, des maisons où des prostituées étaient rendues à la disposition de manière à faire chanter des gens aussi, il y avait comme... C'était tellement noué, donc rapidement on voit le lien avec pas nécessairement le roman noir, mais certainement la notion d'intrigue, c'était intriguant ce qui nous a fait ce moment-là collectivement.
C'était un matériau formidable à exploiter pour écrire un roman. Ça n'avait jamais été fait en tant que tel dans le roman noir au Québec ou ailleurs. Ça a peut-être été mentionné des histoires de corruption, mais jamais en plongeant vraiment dedans. Alors je me suis dit, faut saisir cette opportunité. Et puis malgré tout, avec toutes les horreurs que ça véhicule, ça amuse le lecteur amateur de genre. avec les émotions qui vont avec. Donc on va s'éprendre des personnages, on va avoir peur pour eux, on va s'inquiéter pour le sort de la journaliste comme de Thériault, et en même temps on va être content quand l'un va casser la gueule aux méchants et quand l'autre va réussir à démasquer plus ou moins certains complots.
C'est sorti en France, ça va sortir en France. Est-ce qu'il a fallu écrire d'une manière un peu différente pour que l'oreille, pour le lecteur québécois, le lecteur de l'Europe, vous disiez tout à l'heure que ce serait plus que simplement la France, est-ce que ça a teinté votre stratégie d'écriture?
Ben, la stratégie d'écriture, elle est teintée finalement par l'identité de l'auteur. Je suis, on pourrait dire, un néo-québécois, mais je suis français d'origine, donc quand j'écris, ma langue, c'est ma langue, quoi. Donc c'est sûr que ça peut, il y a pu avoir des débats.
Non, mais si un enquêteur mange des bleuets, on n'ira pas jusqu'à dire myrtille.
Non, ben voilà, par exemple.
Non, mais j'ai trouvé ça assez juste, ouais, effectivement, ouais, parce que autant les gens vont se parler, et puis on reconnaît tout de suite que c'est justement une plume française. En même temps, y a une façon de nommer les choses où on comprend, on dit, y a un gilet du CH. Ben, pas besoin de prendre le temps d'expliquer que de l'équipe de sport locale. C'est plus subtil que ça. On les codes et les référents québécois sont tout à fait faciles.
Ouais, donc je pense que ça parle très bien ça parle bien aux lecteurs québécois, mais que les Français s'y retrouveront facilement aussi, parce que finalement, les écarts de langage sont toujours appropriés par rapport aux personnages. Il y a quelques personnages français. Et beaucoup de personnages étrangers, finalement, il y a beaucoup de personnages qui viennent d'ailleurs aussi dans ce livre, parce que le Québec d'aujourd'hui, c'est ça aussi.
Et parce que la corruption ne connaît pas de frontières.
Exactement.
Et ça se collabore, oui,
en vrai, en terminant.
Ben, c'est ça, le personnage de l'inspecteur Beaumont est intéressant dans ce sens-là, parce que lui, bon, premièrement, on assiste à son processus de déduction, puis comment il essaye de relier les choses, des fois intuitivement, tout ça, puis il y a une devaine un peu à la Jean Gabin, je trouve, il y a une espèce de lourdeur dans ce personnage-là, il est tanné, tu sais, puis tu sens, non, pas encore un crime, puis il y a quelque chose d'assez fascinant dans le regard que lui pose par rapport à l'intrigue principale.
Désabusé par rapport à son métier.
Ouais, vraiment.
Ouais, ben sur Beaumont, ce que j'aimais, c'était une espèce de sagesse qui est là, ou en tout cas l'homme est capable de comprendre ses limites, même émotionnelles, et de se dire, je vais travailler là-dessus, il y a cette sagesse. Et par rapport au côté Gabin ou autre, j'explique à un moment donné que, parce que j'en connais des Québécois comme ça, qui tripent sur les films, notamment avec Jean Dujardin, donc il retient des expressions typiquement françaises pour dire, par exemple, quel bordel,
exactement. Nous autres, nos clichés à nous, comme quand on voit qu'il y a un Français qui essaie de sacrer, de dire tabernacle, mais ça marche pas, on le sait tout de suite, ça marche pas.
Oh, ouais, c'est vrai.
C'est terminé, André, je suis désolé. À Gabin dans la un carton jaune pour... Alors, ça s'appelle Les corps sur la neige de Stéphane Ledier. Merci d'être venu en studio. C'est chez Robert Laffont, Québec, et c'est publié déjà, c'est dans les librairies déjà depuis quelques semaines.
Eh oui, merci beaucoup.
Stéphane Ledier, à très bientôt. Dans un instant, André Caron et la série Fallout. Depuis deux semaines est présentée sur la plateforme d'Amazon Prime la série post-apocalyptique Fallout que tu t'es farci en entier, André.
Non, pas en entier, je suis pas rendu là.
T'es pas rendu au 8 et au 8e épisode?
Non, j'ai trop de travail.
Par déception? Ah non, ok, t'es trop...
Non, ben je me suis rendu quand même au 4e épisode, donc la moitié de la série. Et ce qui est...
J'en ai vu deux de mon côté.
Oui, mais ce qui est assez fascinant, c'est que c'est... Habituellement, il essaye de reproduire le narratif du jeu vidéo, même si j'aime pas le mot narratif employé dans ce contexte-là. Mais il essaye de reproduire, tu sais, l'intrigue principale qui sous-tend le jeu vidéo. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'univers Et ils ont emprunté un peu cet univers-là pour plaquer une intrigue dessus. Fait qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans.
D'ailleurs, dans la série des jeux Fallout, à moins que je me trompe, mais les jeux ne sont pas des suites. Non, chacun raconte une manière différente de vivre l'apocalypse rétro-futuriste nucléaire.
Ouais, dans une voûte en particulier.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe en fait, dans cet univers-là?
Il y a plusieurs voûtes. Là, on est dans les voûtes 33 et 32 quand on se retrouve dans l'apocalypse.
André, tu vas me laisser parler deux secondes parce qu'on est dans les années 50.
Oui, c'est ça que j'allais
20e
dire.
20e siècle.
1955.
Guerre nucléaire précis. Qui éclate et rapidement va se transposer 219 ans plus tard, alors que des terriens qui vivent sous la terre dans des abris, des sortes de bunkers.
C'est ça, les espèces de voûtes, là.
Voilà. Et, mais il y en a qui vivent toujours et ils sont irradiés, mais évidemment, au-dessus de tout ça.
Ouais.
Et l'on suivra dans cette série
Fallout. Mais ils sont pas tous irradiés.
Non, pas tous, nécessairement. Il y a des nuances. Et on suivra, je dirais pas trois histoires parallèles, mais trois personnages principaux qui vont se croiser.
Oui, ben, c'est ça, la jeune femme. Mais ce qui est fascinant dans le début, dans la façon dont il illustre l'explosion nucléaire, je sais pas si tu te souviens du film de Joe Dante, Matinée. Ça ressemble vraiment à ça, parce que l'explosion qui rouvrait le film, c'était pour avertir les jeunes de Duck and Cover, tu sais, avec les de l'époque. Fait qu'il y a cette...
Se cacher sous son pupitre.
Sous son
pupitre,
puis c'était la tortue qui faisait les messages dans les dessins animés, tu sais. Donc, ça reprenait cette qualité-là. Et après ça, quand on se retrouve dans le futur, ben c'est comme, surtout dans la voûte 33, dans laquelle ces gens-là vivent, qu'on a vu au début, ben là, ils sont... enfermés dans une espèce de 1950 permanent, mais à la vision futuriste qu'on avait, par exemple, dans Tomorrowland, chez Disney, tu sais, dans les années 50, Disney avait propulsé le futur, puis avait une vision ben précise de tout ça, qu'on retrouvait dans l'âge de cristal, entre autres, là, Logan's Run.
Epcot Center aussi.
Puis Epcot Center est devenu l'emblème de ça. Mm-hmm. Fait que, donc,
futur, mais des années 50.
Rétro-futuriste,
Mais avec un mélange de western, carrément.
Mm-hmm. Mélange de western, mélange de aussi les robots, parce qu'à la surface, il y a cette espèce de confrérie du métal, là, puis ces robots-là me font beaucoup penser à Real Steel, tu sais, le film avec Hugh Jackman, là. Puis d'ailleurs, le son des pas est le même. Donc, il y a beaucoup de petites références comme ça, subtiles, à ces univers-là. Puis là, ben, celle qui fait le personnage principal, la jeune fille, dont le père est Kyle MacLachlan, quand même, c'est pas n'importe qui, c'est pas rien.
Qui a fait quoi déjà d'autre?
Qui faisait Paul Atreides dans le premier Dune.
Et Twin Peaks.
Puis Twin Peaks, Dale Cooper, l'agent
Donc,
Dale Cooper.
Une gueule assez profonde.
Tout le monde ensemble, tout doudou, tu sais, la musique. Et donc, on est vraiment dans un univers particulier, mais
carton
quand on
jaune
tombe,
cabotinage.
C'est ça. Mais quand on tombe,
le deuxième carton, c'est un rouge habituellement.
Pardon. Moi, il fout.
Le personnage western dont tu parles, l'acteur qui s'appelle
qui joue la goule.
Ouais, c'est ça, Walton Goggins qui s'appelle. Il est assez surprenant. Il jouait dans Hateful Eight. Il faisait d'ailleurs le shérif dans de Tarantino. Mais il me fait penser à Jim Carrey dans Mask quand il fait le ghoul. Tu sais, il y a un peu le visage, la manière qu'il est construit, ça fait penser à ça. Fait que, encore là, on a beaucoup de plaisir à suivre ça, mais surtout, c'est tellement impressionnant la facture visuelle de
il y a de l'argent derrière Fallout.
C'est incroyable.
Prime mise beaucoup là-dessus.
Ouais.
Il faut le dire, il y a deux caractéristiques qui sont partagées par The Last of Us, qui a connu un gros succès du côté d'HBO, et Fallout, c'est que c'est l'adaptation d'un jeu vidéo, et c'est post-apocalyptique. Pourtant, c'est des univers, ou plutôt, je dirais, une façon de raconter l'histoire qui est très différente.
C'est, je dirais que c'est le syndrome Brésil. Tu sais, c'est de faire des histoires parallèles avec le futur. Parce que, d'autant plus qu'on démarre dans les années 50, ça fait que ce futur-là n'est pas plausible dans notre univers à nous. Fait qu'on est vraiment dans un univers parallèle qui s'amuse avec les conventions aussi de ces
comme la science-fiction des années 50. Puis
en plus, c'est ça. C'est ça, mais
futur
sans
métropolis,
ça donne une iconographie
aussi,
magnifique.
Sans les monstres des années 50, Dieu soit loué. Là,
oui, sans la femme de 50 pieds, puis les fourmis géantes de Them.
Oui, ben, je dis ça, mais il y a quand même des blattes énormes. Puis il y a aussi le monstre dans l'étang, là, qui est une espèce de machin gluant, là. Qui a l'air d'être faite, d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué l'intérieur de la bouche de la créature, on dirait des doigts. C'est complètement capoté. Au lieu d'être des dents, c'est des doigts. En tout cas, donc, il y a beaucoup d'imagination là-dedans.
Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui est la quête finalement du personnage? Pourquoi on suit ce personnage?
Elle tente de retrouver son père.
Elle veut retrouver Kyle MacLachlan. Qui ne voudrait pas retrouver Kyle MacLachlan? Donc ça, c'est un bon point de départ, mais elle recherche une femme en particulier qui était dans le silo à côté, dans le silo 32, mais eux autres avaient déjà atteint la surface puis avaient été irradiés.
Qui est à l'origine de la rébellion.
Et elle est partie avec son père. Fait qu'elle elle la cherche, on sait pas trop pourquoi, rendu à l'épisode où je suis là, puis il paraît que c'est un gros divulgateur si on le dit. Donc, je le dirai pas parce que je le sais pas. C'est mais une bonne raison.
Hein. André, tu as du fun avec la science-fiction. Oui. Ça, c'est normal, on connaît tes intérêts. Vas-tu quand même poursuivre? Moi, j'ai pas tant embarqué là, dans cet univers-là.
Ben moi, ce qui... c'est que...
Après deux épisodes, du moins.
Je trouve que Ella Purnell, là, qui est la jeune fille... Elle a vraiment beaucoup, beaucoup de présence. Elle jouait dans Miss Peregrine, le film de Tim Burton. Mm-hmm. Puis, tu sais, ses yeux, c'est incroyable. Elle a des grands, grands yeux. Puis, elle a quand même beaucoup d'intensité. Fait que je trouve que sa quête est intéressante, mêlée avec celui du noir. Qui
est l'écuyer, qui est l'écuyer des robots. Mais les trois personnages, de les amalgamer, je trouve qu'on force. Il y a quelque chose
de forcé. C'est un peu forcé.
Curieux de savoir ce qui va leur arriver ou bien pas? On est curieux de savoir ce qui est arrivé dans cet univers-là. On est curieux de voir, mon Dieu, mais comment ils vont s'arranger politiquement, ces gens du futur post-apocalyptique?
C'est drôle,
c'est ça les questions qu'on se pose, on dirait.
Ben, ça pourrait être les questions qu'on se pose.
Mais c'est pas les thèmes qui sont
abordés.
Franchement,
c'est pas ça qui m'intéresse quand je la regarde. C'est l'environnement. C'est l'environnement. Comment c'est décrit?
Au niveau du son, j'imagine qu'il y a tout un traitement qui doit être
le son, puis comment c'est devenu... Tu sais, il représente à un moment donné un parc d'attractions qui est carrément Tomorrowland. Fait qu'il y a quelque chose d'assez... Et ça rappelle la finale de Midnight Special, là, le film de Nichols.
Mike Nichols. Jeff
Nichols. Le fils de l'autre, en fait. Et donc, cette fin-là était aussi reliée à Tomorrowland, tu sais, avec l'espèce de paysage qui apparaissait. Donc, il y a beaucoup de... Tu vois que c'est fait aussi beaucoup pour un public cinéphile, public de jeux vidéo, je le sais pas, parce que ça tire en longueur. C'est comme Pierre disait aussi, au niveau des intrigues, on n'est pas vraiment... mais c'est tellement fascinant à observer. C'est là, moi, qui est mon intérêt dans une série comme ça. Mais ça serait le seul intérêt, donc c'est un peu superficiel à quelque part aussi.
Ben non, mais on peut comprendre le trip esthétique quand il est vraiment riche.
Exactement, mais il y a toujours une limite à adapter les jeux vidéo. À un moment donné, ça s'étiole tout seul, mais moi, je me fie sur Jonathan Nolan pour arriver à quelque chose à la fin. Fait que j'ai hâte de voir où c'est qu'il s'en va avec ça, parce que Westworld, c'était vraiment
fascinant. Il était
déçu,
parce qu'on a tiré la plug en bon québécois sur Westworld. Il était censé avoir une dernière saison, quatrième saison.
Je pense que la proposition rendue à la quatrième saison avait tellement évolué par rapport à la première saison que j'ai l'impression que c'était difficile pour HBO de continuer en ligne droite.
Moi, j'avais décroché.
Mais les deux premières sont...
C'est ça, fait que je m'attends...
C'est nécessaire, en science-fiction, c'est des éléments...
C'est un peu comme ça dans Westworld. Tu sais, t'as une création d'un univers particulier, puis la façon dont ils jouent avec les codes. Mais là, peut-être les personnages sont moins fascinants qu'ils l'étaient dans Westworld. Donc, peut-être qu'on va moins accrocher, mais je vous donnerai des nouvelles à un moment donné.
Hey, j'ai lu dans la distribution que parmi les petits rôles, les rôles secondaires dans cette série Fallout, on retrouve Eric Estrada. Donc, pour ceux qui ont mon âge, vous vous souvenez de
Chips.
Celui qui était dans Chips, la série des années 80, des
cheveux blonds très épais?
Non, c'était au contraire, c'était celui qui avait les cheveux noirs. Pas Larry Wilcox, mais l'autre qui était ténébreux, le beau gosse. Il faisait la une du journal
dans l'émission?
Pas encore, non, je ne l'ai pas reconnu.
Non plus. Mais par contre, il y a celui qui faisait le méchant dans Lost.
Dont j'oublie tout le temps le nom, qui est un comédien dont j'adore la bouille.
Ah oui, puis c'est ça. Puis
le méchant
d'ailleurs,
Benjamin, ça?
D'ailleurs, c'est sa tête.
Celui qui contrôlait l'autre moitié de l'île. Là,
exactement. Puis d'ailleurs, c'est sa tête qui finit par être l'enjeu d'une partie de l'action.
Alors, Fallout sur Prime, puis sinon, moi, je suis encore sous le charme, Ripley sur Netflix.
Oh oui, Ripley.
C'est qui m'a époustouflé. Merci, André. Dans un instant, on retrouve... André Pierre, je
suis là, mais on a aussi notre
Luc Lafontaine s'en vient également. Bref, mon Dieu, de tout pour tous, dans un instant.
Après.
CKRL. À vos marques, soyez prêts, misez. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Abonnement VD, hébergement, œuvre d'art, certificat cadeau, resto-bar, loisirs et plus encore.
deux options vous seront proposées, soit la mise instantanée ou la mise maximale. Découvrez tous les lots et misez dès maintenant sur macause.com/CKRL. Bonne chance! La Rotonde présente Bordélique, un spectacle de danse qui plonge dans les rêves et cauchemars de la créatrice Mélissa Martin, alias Melmaze. Trois interprètes nous embarquent dans une épopée colorée et débordante d'énergie. Créatures fantastiques, danse urbaine, Bordélique, c'est un spectacle adressé à l'enfant qui sommeille en vous. À voir du 17 au 20 avril à la Maison pour la danse. larotonde.qc.ca.
Le 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, un rendez-vous pour les arts vivants qui sortent des sentiers battus, du 13 au 19 mai 2024. Au programme, concerts, installations sonores dans l'espace public, films expérimentaux et arts visuels. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Place au théâtre à l'Anglicane. Le 3 mai, voyez la pièce « Le nœud », traitant d'un sujet bouleversant et abordé avec finesse.
J'ai fixé le rendez-vous avec Carole, je pense. Je l'ai appelée, vendredi après-midi.
À quel sujet?
Au sujet de mon fils.
C'est qui votre fils?
Grégory.
Le 16 mai, soyez émus par Maurice, une pièce abordant l'aphasie et teintée d'humour.
Voyage, là, loin, bye, tout le monde, bye.
Réservez vos places dès maintenant à l'Anglicane de Lévis. Billets disponibles au espacedcl.ca. Participez à l'événement radiophonique incontournable de l'année, le Radioton de CKRL. Pour cette occasion spéciale, la station se transformera en véritable cabaret, mettant en lumière des artistes de Québec. Au programme, spectacles, performances, discussions et tables rondes. Le Radioton vous est présenté grâce aux partenaires majeurs suivants. La Boîte à pain, la Corrigane, le Bal du Lézard, Audiolite, Alimentex, Atémi, les cinémas Le Clap, Sainte-Foy et Loretteville et Hôtel Château-Laurier. Du 26 au 28 avril, ne manquez pas ça.
L'émission Fahrenheit 89.1 vous est présentée par le Cinéma Le Clap, diffuseur d'œuvres cinématographiques internationales et québécois depuis 35 ans.
Asseoir, M. Lafontaine. Il bouge dans le studio. Puis
vous avez de la difficulté avec la discipline de votre classe aujourd'hui, M. Blais.
Je te jure, une cour d'école, le studio de CKRL.
Pourtant, je croyais que vous étiez versé à l'art de contrôler une classe.
Main de velours, gants de fer dans une main de... Bon, de Monsieur André-Pierre Bérubé, rebonsoir, c'est Pierre Blais au micro, en compagnie de Luc Lafontaine. Et cette deuxième demi-heure de Fahrenheit 89.1, c'est pour ça. Je vous dis de vous asseoir, M. Lafontaine, puis c'est vrai, c'est même pas votre tour.
Je sais.
Il va nous parler tantôt de Malartic. André-Pierre Bérubé, chronique livre, chronique essai.
Alors, moi, je vous parle d'essai, et cette fois, j'ai choisi Le choix de se taire de Stéphane Gallarneau. Le sous-titre, pour contrer le bruit incessant de la machine à opinion. Et Stéphane Gallarneau, on le connaît bien sûr comme
animateur, chroniqueur à la radio
de Radio-Canada. Notamment une émission qu'il fait en ce moment qui est très très bien, qui s'appelle La petite histoire d'une grande journée. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais on prend une journée dans les années 60 ou 80 et on sort toutes sortes d'actualités de cette journée-là et ça nous permet de raconter toutes sortes d'aspects de l'histoire de cette façon-là. En tout cas, du très, très beau travail. Et Stéphane Garneau, je l'apprenais en tout début d'émission, fils du grand Richard Garneau.
Qui a été à la soirée du hockey durant des années, mais qui a couvert aussi les Olympiques à Radio-Canada longtemps. Mais Stéphane, c'est pas son premier livre.
Non, c'est son sixième. Et c'est pas son premier essai. Il s'était essayé à la... Il avait tenté l'exercice avec un livre sur le deuil pendant la pandémie en 2021 et il arrive avec un livre sur la notion de satire et je trouvais ça intéressant parce que quand on est un animateur à Radio-Canada, par exemple, ben on peut pas donner son opinion sur les réseaux sociaux à tort et à travers. Donc forcément, on n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on, auquel on a droit. Alors, on garde toujours une distance de ça et on sent que Stéphane Garneau a vraiment pu voir évoluer autour de lui, autour des années, le bruit qui a commencé à se créer graduellement, année après année, avec l'émergence des nouvelles technologies. Alors, de quoi on parle? On parle du bruit, de toutes ces petites décisions, ces petites nouvelles qu'on entend, la surabondance d'informations, le fait qu'on se sente lassé, fatigué, épuisé par ces nombreuses
sollicitations,
nos amis qui nous écrivent pour
et prise de position publique.
Oui, je sais, il y a des gens qui dans les années 90, la notion de le ratio information-action. On est malheureux quand on a beaucoup, beaucoup d'informations et très peu d'actions qu'on peut poser. Quand on a peu d'informations, mais qu'on peut agir, ben, c'est souvent là où on se sent le plus heureux dans les situations. Alors, il étudie vraiment ce phénomène-là. Il le compare avec la notion du bruit physique, le vrai bruit, qui a un impact sur notre santé, qui a un impact sur notre psychologie. Rapidement, il va étayer son propos avec toutes sortes d'études, notamment, ben, déjà, juste j'ouvre comme ça, une étude conjointe des facultés de psychologie de l'Université du Kansas et de l'Utah ont déterminé que des personnes isolées dans la nature, déconnectées des médias et des technologies, au bout de 4 jours, eh ben, leur capacité à résoudre des problèmes par des solutions créatives augmenterait de 50%. C'est pas une augmentation de 2-3%. On le sait tous que passer du temps en nature, se relaxer, se couper, ça nous aide à être plus efficaces, plus intelligents et tout ça. Et
moi, entouré de bêtes sauvages, sous une pluie torrentielle et à 5 degrés en forêt,
ça développe définitivement votre...
Ma créativité, tu crois? Je me sentirais quand convaincu. Même légèrement dépourvu.
Ben, en tout cas...
Lorsque l'abeille suis venue.
Les chercheurs du Kansas sont convaincus que ça ferait de vous un homme meilleur. Mais je vous donne peut-être un exemple où là, on est un peu plus dans la notion de l'essai, mais du bruit qui ne se mesure pas en décibels, mais qui résonne dans nos têtes, un peu comme la hotte de la cuisine. On l'oublie parfois quand elle est allumée, mais quel soulagement quand on l'éteint. Notre cerveau l'avait oublié, mais pas notre corps. La hotte des médias sociaux nous draine beaucoup d'énergie mentale. Il est difficile de s'en éloigner. Nous en sommes tous passablement dépendants. Et on l'a démontré scientifiquement, les interactions sur les réseaux, les j'aime, les commentaires et les partages, ça a même effet qu'une bouffée de cigarette. Donc, moi, je me reconnais un peu dans cette notion-là de fermer la hotte, de, à un moment donné, se rendre compte qu'il y a toutes sortes de choses qui nous distraient sans arrêt. Et puis, en lisant ça, ben, je me suis rendu compte d'abord, quand je lis, moi, je me mets toujours un fond de musique. Mm-hmm. Toujours, toujours.
Et comme essayer de rester si concentré. Bien France Gall, débranche tout.
Ben, c'est un peu l'énergie qu'on retrouve là-dedans. En même temps, c'est pas spécialement nouveau comme idée. Il me semble que ça fait 3 essais dont je vous parle.
Je le dis avec le sourire, mais Stéphane Garneau, il est quand même actif sur les réseaux sociaux.
Ben, il y a ça. Puis aussi, on termine le livre. Puis la dernière page, on a l'éditeur qui nous met les logos de Facebook, Twitter et Instagram en disant « Suivez-nous ». Ce qui sonne un peu faux.
Paradoxal.
Après tout ce qu'on a lu,
on s'en amuse. Parce que
il faut se nourrir de choses qui nous intéressent, notamment l'édition de livres avec des idées qui nous conviennent.
Mais c'est une petite plaquette dont tu viens de nous parler jusqu'ici, André-Pierre. Mais est-ce qu'il parle beaucoup au jeu, Stéphane, dans son livre, ou il va justement, au contraire, d'un certain détachement pour nous parler d'études,
façon
plus générale que d'être plus personnel dans son approche?
Donc, au début, on se dit, bon, peut-être qu'on va avoir un peu le portrait du journalisme qui étaye ses propos par voici la preuve, démonstration A, démonstration B, démonstration C. Pas du tout. Quand on arrive vraiment plus au cœur de son essai, plus au centre, il va y aller un peu plus de ses expériences personnelles. Seule chose, par exemple, c'est qu'il y a un très long segment où on se questionne sur la notion de silence, comment le silence est important pour nous, comment il est bon pour nous. Après ça, on fait le silence réel, le silence du son, pas de décibels ambiants. Et après ça, on nous parle des réseaux sociaux et tout ça. Et des fois, le lien se fait moins bien. Des fois, on comprend pas nécessairement pourquoi on nous met ensemble ces idées-là. on a l'intuition de se dire, ben, c'est vrai que le bruit, en général, ça nous dérange, et on comprend en quoi ça, c'est du bruit. Mm-hmm. Souvent, on dit en communication le bruit sur la ligne, c'est quelque chose qui s'ajoute, qui nuit à la transmission du message, évidemment. Lui, sa thèse, c'est, ça fait pas juste nuire à la transmission du message, ça nous épuise, ça nous enlève de l'énergie.
André-Pierre, le silence avec un grand S dans la société dans laquelle on est rendu, et c'est fort dommage, mais ça crée de l'angoisse.
Les
gens qui sont incapables de se retrouver dans un endroit. T'sais, prenons un exemple. Dans un centre d'achat ou une boutique où on coupe la musique d'ambiance qu'on y retrouve, il y a des gens qui seront incapables de magasiner.
Ben, je trouve ça intéressant et je fais un lien avec un balado que j'ai écouté récemment fait par Arte sur le son au cinéma et où il nous parle de La rencontre du troisième type, film de Steven Spielberg, la scène de l'enlèvement. On nous étale, on nous montre l'enlèvement du petit garçon la nuit. Donc, on nous montre la maison, on nous montre la nuit. On entend les grillons, on entend les chiens qui jappent au loin. Et quand les extraterrestres sont là, on les voit pas, mais on n'entend plus les grillons et on n'entend plus les chiens autour. Il y a un silence qui se place. Et ce silence-là, il nous fait nous sentir mal. Donc, même quand on enlève des éléments du son, ça a un impact autant que quand on ajoute des éléments dans notre environnement sonore, il y a un impact là-dessus. Alors là, il va étudier un peu, Stéphane Garneau dans le choix de se taire, va aborder un peu ces notions-là, habituellement avec quand même beaucoup de finesse. Parfois, on a un peu de misère à faire le lien. À un moment donné, il se met à parler du couple, puis de la notion de faire l'épaule froide à sa douce moitié. Là-dessus, je le suivais un petit peu moins là, sur la notion là, de bruit et du bruit incessant de la machine à opinion.
Le choix de se taire de Stéphane Garneau, animateur et chroniqueur à Radio-Canada, son livre et son essai, devrais-je dire, est publié chez...
XYZ, la collection Réparation, et c'est très élégant, cette collection-là. Vous la reconnaîtrez parce qu'il y a une aiguille et un fil dans son logo, et c'est parce que c'est une collection qui a comme objectif de nous fournir les outils pour repriser notre société malade, pleine de trous, réparer, rapiécer, voilà.
Qui nous invite à en découdre.
Ben, tout à fait.
Dans un instant, Malartic, le documentaire vu par Luc Lafontaine. Il est en studio, fidèle à lui-même, il nous parle documentaire. Luc Lafontaine, bonsoir.
Bonsoir, Pierre.
Il est descendu de son manoir du haut de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour nous parler d'un film qui se promène entre Montréal et l'Abitibi, là, pour titre Malartic, et c'est le nouveau long-métrage documentaire de Nicolas Paquette qui, lui, fait des documentaires depuis un bail.
Oui.
Il est du côté du Bas-Saint-Laurent, mais il a quitté son Bas-Saint-Laurent pour donner suite à un film qu'il avait réalisé il y a plus d'une dizaine d'années.
Exact.
Qui s'intéressait justement à toute l'exploitation minière du côté de Malartic en Abitibi, un film qui s'appelait La Règle d'or.
Oui.
Et là, plus d'une douzaine d'années plus tard, il retourne sur place pour voir si les promesses qui ont été données à la ville de Malartic pour dire, regardez, la mine, là, elle va grossir, on va déplacer des... Il y a quoi, 200 maisons qui ont été
exactement,
déplacées,
exactement, 200 maisons, oui.
On avait fait des promesses à la population. Ça va bien se passer, la richesse va arriver, il y a des commerces qui vont se créer. Et il va sur place pour dire, oui, mais qu'est-ce qui est arrivé depuis?
Comment ça s'est passé? Effectivement, Nicolas Paquet, avec la Règle d'or en 2010, donc avait couvert le déménagement des 200 maisons, avait couvert également donc des témoignages auprès des gens donc concernant la ville qui était un peu à l'abandon et que
les pour et les contre.
Osisko, c'est ça, en avait fait le rachat pour 50 000 $ et comme on va apprendre dans le film, elle vaut plus de 10 milliards. Donc une plus-value intéressante pour la compagnie, mais c'est souvent les compagnies qui s'en tirent ainsi. Bref, Nicolas Paquet également, qu'on avait déjà ici recensé pour son un documentaire Casse-croûte, que j'avais trouvé intéressant. Il voyait davantage au quotidien ce qui se passait dans un casse-croûte, mais ici, vraiment, il nous amène davantage sur l'aspect social, les inégalités.
Dans l'enquête, littéralement.
Oui, dans l'enquête, carrément, de ce côté-là. Il s'est entouré aussi, lorsqu'on regarde un petit peu le générique, ces choses-là, mais la musique originale de Richard Desjardins.
Oui.
Hugo Latulippe est également consultant sur le documentaire. Et puis, c'est des gens que j'ai remarqué en regardant aussi La Règle d'or, des gens avec qui il avait travaillé auparavant, qui se retrouvent encore avec lui. Donc, il y a comme une équipe, il est bien entouré.
Et donc, à l'écran, il est bien entouré aussi, en ce sens
exactement.
Où il se met en scène. On le voit lui-même en voiture alterner ses visites entre Malartic et Montréal. On le voit aussi interviewer, et c'est des gens qui sont forts en gueule. Je pense à Anne-Marie Voisard, juriste, il y a une anthropologue, Annabelle Blais aussi, qui est journaliste.
Sûr, oui.
Puis un homme extrêmement charismatique, puis c'est le gars de Cisco, Luc.
De Cisco, tout à fait.
Robert Warris, je
oui,
pense.
Oui, même si...
Ils sont toujours sympathiques. Ils n'ont pas le choix d'être sympathiques, ces gens-là.
Ben, pour pouvoir les recevoir.
Honnêtement, ils ont vraiment pas le choix. Là.
T'as quasiment le goût d'apprécier, mais bon.
J'irais prendre une bière avec, sérieux, je rigole pas. Il est super intéressant, l'homme d'affaires.
Oui, ça, j'en doute point, excepté que lorsqu'on commence à éplucher un peu ce qui se passe autour de comment ça se fait et quel est le processus qui est derrière, ben là, on peut commencer à se poser des questions.
C'est le gouvernement qui se met à genoux, oui. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ce qu'on voit avec Nordvolt, là.
Oui, ben c'est en plein ça où que je vais en arriver à la fin, puis avec Murdochville aussi. Mais pour pouvoir replacer, ce que j'aime dans son documentaire, c'est que, un, il va voir des citoyens, il va voir des gens également qu'il a vus il y a plus de 10 ans pour savoir ce qu'il en est. Il va voir également, ben, comme tu viens de souligner, Osisko qui a vendu la mine, mais il y a quelques années, mais qui était le propriétaire tout dernièrement. Va rencontrer également la chercheuse, les gens de la santé publique. Tu l'as souligné, Anne-Marie Voisard également. Mais il essaie d'avoir des entretiens avec Investissement Québec, avec le maire de la ville, avec les différents ministères, entre autres, de l'environnement. Puis
des
refus. Puis c'est de dire, ben, c'est quoi vos questions? C'est quoi votre documentaire?
Ben, ils ont peur de se mettre un pied dans la bouche.
Ben, et avec raison lorsqu'on voit le film, parce que de voir les dénonciations qui sont effectuées. À titre d'exemple, on peut y aller tout simplement que lorsqu'il y a eu un recours collectif et puis que la firme d'avocats était confiant parce qu'ils avaient réglé avec dans la région de Québec à Cap Santé, Olicard qui s'occupe de peinture. Donc,
c'était pas Cap Rouge?
C'est à Cap Rouge, oui. Excuse.
T'as dit Cap Santé.
Ah, excuse-moi.
On est d'un cap à l'autre.
Oui, c'est ça. On reste dans le même secteur, à 50 km. Mais qui, donc, était confiant de pouvoir remporter. Mais que le gouvernement a changé les règles du jeu à la dernière minute.
Ouais, c'est ça.
Et là, c'est que j'en viens à Nordvolt, justement,
même
où
chose.
Le ministère de l'Environnement
avec
est bâillonné. Puis qu'il ne peut rien faire face à
les taux d'émission.
À ce changement-là de réglementation de dernière minute. Et de tout comprendre aussi, il y a tout un autre volet social, sociologique, anthropologique qui est présenté, c'est de voir les répercussions auprès des gens. On nous le fait bien sentir, même dans la vidéo, lorsqu'on voit les deux dames qui ont écrit un livre sur l'histoire de la ville, de la mine. Il y a une explosion pour la mine, puis à l'intérieur du bâtiment où elle se retrouve, bien, ça bouge. Donc, c'est au quotidien, ces situations-là.
Ça montre vraiment de quelle façon leur vie est bouleversée. On le sent quand ça se met à vibrer de partout, puis la maison
ça
vibre.
Ça explose même de nuit.
Oui, c'est que c'est de nuit. Il y a un très beau ballet de camions filmé de nuit au niveau de la mine également.
Il y a une question, je ne sais pas si la question est adressée on n'adresse pas une question, évidemment. Je me suis rattrapé au dernier moment, mais je ne sais pas si le documentaire se pose la question suivante. Les citoyens se sentent, en Abitibi, se sentent en général mal de dire du mal de l'industrie minière
parce qu'ils
se disent on n'existerait pas s'il n'y avait pas ça, mais en même temps, les retombées ne sont pas en Abitibi ou très peu, et
les
futurs projets ont encore beaucoup moins de retombées favorables pour les communautés que ceux des années 50, de par la nature des trous à ciel ouvert qui sont en train de se creuser partout en Abitibi.
Ben, entre autres, celui de à ciel ouvert pour ce qui est de la mine, puis qu'il va y avoir un deuxième volet qui démarre. Mais justement, ça, c'est abordé lorsque je parlais des conditions au niveau sociologique ou anthropologique qui sont présentées. C'est la fracture qu'il y a entre les gens et qu'il y a un genre d'omerta pour éviter d'échanger ou de discuter sur ces questions-là, parce que automatiquement tu es considéré comme étant contre le développement, et puis que tu es contre mon beau-frère parce qu'il y a un job dans la mine, etc. Donc, ce qui amène un genre de ce qui expliquait un genre d'omerta, les gens vont se taire, vont garder pour eux. Donc, il y a des répercussions sur la santé mentale aussi des individus à plusieurs niveaux. Et ça, ce type d'omerta-là, ben, ce qui fait qu'au sein de la ville, ben, les gens sont entre chien et chat, ils vont pas nécessairement discuter, aborder, ce qui fait que ça vient fragiliser les réseaux de solidarité pour le sociologue en moi qui sort de Klaus. Il y a ce lien là qui est effrité, et que le consensus social il est plus présent. Donc c'est le nous, c'est le eux, c'est la méchante mine, mais en même temps elle est méchante, elle est bonne pour certains. Est-ce qu'elle est assez bonne pour la ville? Ça aussi, c'est un autre élément, parce qu'il y a un effet pervers là-dedans. C'est que les villes, pour pouvoir s'en sortir au Québec, ben, c'est par le pouvoir de taxation. Donc, pas à Murdochville, mais à Malartic. Si tous tes commerces sont en train de fermer, tu passes d'une population de 7000 à 3500, puis là, tu as une mine qui débarque, ben, tu es capable de faire de paver tes routes, etc.
Luc, tu as parlé de Murdochville, c'est parce qu'il y a une allusion dans le documentaire Malartic qui pourrait entraîner un troisième documentaire de la part de Nicolas Paquet, s'il le désire.
Un triptyque.
Ben, c'est parce que là, les promesses qui ont été faites à Malartic...
La forme la plus élevée d'art.
Les promesses qui ont été faites à Malartic, à la population de Malartic, voilà plus d'une dizaine d'années, sont les mêmes qui sont en train de se faire du côté de la Gaspésie.
Exactement, c'est que Odisco est en train de procéder. Le président que tu trouves sympathique, tu voulais prendre une bière avec, disait que ça ne sera pas avant 4-5 ans, on fait tout ça avec transparence.
Un projet d'exploitation de mine,
oui, c'est le cuivre. C'est le cuivre, donc de relancer. Et la mairesse, lorsque là, Nicolas Paquet a pu rencontrer la mairesse, parce que le projet, comme elle le soulignait, elle l'a appris par les journaux, mais elle disait à un moment donné que, bon, bien, on est tout à fait d'accord, Malartic a pu prospérer, tout ça, pourquoi pas nous? Donc, j'imagine que lorsqu'elle va visionner le film, peut-être elle va se reviser un peu sur
les notions de prospérité. Parce que c'est ça, c'est pas nécessairement sur place que l'argent est dépensé. Avec les défis, en plus, que les défis de main-d'œuvre dans le domaine de l'exploitation des ressources naturelles est aussi important qu'ailleurs, et on se dit qu'il faut absolument maintenir des emplois qu'on a de la difficulté à pourvoir, mais il faut les créer, ces emplois-là, il faut les subventionner, mais on n'est pas nécessairement capable de les pourvoir. Ça amène toute une autre nouvelle manière de penser le développement régional.
Ben, pour le développement régional, ben, ça reste tout simplement comme au niveau de la colonisation. On vient de la Mauricie, Shawinigan. Bon, bien, c'est la même chose. On avait l'hydroélectricité, les usines consommatrices.
Les papiers, la pitoune dans Rivière-Saint-Maurice.
Ben oui. L'aluminium, donc avec Alcan, Rio Tinto.
L'aréna.
Ben, fait en sorte que lorsque...
Vous êtes des Mauriciens de Shawinigan.
Shawinigan. Mais lorsque la ressource est transformée ailleurs où elle disparaît.
La richesse n'est pas ici.
Ben,
c'est ça.
La richesse, je veux dire, Shawinigan, c'est dans une ville fantôme.
Et c'est fou parce que les images. Le film Malartic, là, c'est avant tout une enquête. Hein? Puis c'est pas un gros budget de documentaire comme tel, mais il y a quand même des images aériennes qui parlent d'elles-mêmes.
Tout à fait.
Où on voit, premièrement, il parle de la fosse de la mine, là, mais c'est un cratère.
Tout à fait.
C'est un cratère. L'autre chose, c'est ce qu'on a extirpé, ce qui vient, les déchets,
les marins.
C'est des montagnes comme on envoyait à Thetford Mines. Là. C'est
tout à fait.
On voit toujours, en fait, à Thetford Mines. Il ne faut pas oublier que c'est des choses qui sont très pérennes. C'est pas toutes les créations humaines qui sont aussi permanentes que ça.
On ne fait pas pousser du gazon dessus. Mais ça devient une attraction touristique. Moi, j'y étais il y a 2 ans à Malartic. Donc, tu as le belvédère, tu peux grimper, puis là, lorsque tu arrives à la ville, tu vois tout le cratère de
gigantesque.
Tu vois ça au loin, mais tu vois aussi en même temps que la ville, c'est fermé, c'est placardé.
T'as pris un selfie?
Non, du tout. J'ai passé dans la ville.
Tout à l'heure, tu parlais de vue aérienne et ça me rappelle, il y a quelques mois, ou en tout cas peut-être l'année dernière, sur Radio-Canada, un texte de notre collègue Catherine Lachaussée sur Pierre Laude, l'œuvre de Pierre Laude,
le photographe
aérien, un type qui prend des photos depuis des années et des années, qui a vu le Québec évoluer depuis longtemps. Et quand on lui pose la question, tout le monde lui pose la question, alors qu'est-ce qui t'inquiète quand t'es d'en haut puis tu regardes? Et il dit, les mines, c'est ça qui m'inquiète, c'est ça que... Quand je vois du haut du ciel, avec les années qui passent, comment ça transforme le paysage, c'est ça qui saute le plus aux yeux. Donc, j'imagine que pour un documentaire, ça doit être extrêmement poignant.
Puis d'autant plus que pour l'idée qu'il y a derrière aussi, puis qui est lancée, parce qu'il y a toutes sortes d'avenues, toutes sortes de portes. Je suis sûr que les gens, en allant le voir, vont pouvoir justement ouvrir ces différentes portes-là et y trouver leur compte, que ce soit au niveau politique, économique, au niveau social. Mais ça reste toujours cette même mentalité-là d'avoir de la richesse, de faire du profit, pour améliorer la condition de vie des gens. Mais c'est ça, c'est qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres et puis qui s'en sortent mieux dans cette redistribution-là.
C'est un vampire, une compagnie minière.
Elle le souligne également, c'est qu'ils sont là pour faire créer de la richesse. Les gouvernements en profitent également. Donc, pour eux, tout le monde en profite, sauf la population à ce moment-là. Donc, on maintient encore ce même type de capitalisme sauvage-là, qui fait en sorte d'une dépendance à la compagnie associée à la ville, qui avait développé sa ville comme les autres industries, en ayant ses ouvriers à proximité pour pouvoir avoir sa main d'œuvre.
Je sais même pas, à travers toute notre discussion, si on a dit qu'est-ce qu'on extirpait à Malartic. C'est de l'or. Ça passe tellement en second à travers toutes les conséquences.
C'est pas comme si on en verrait plus l'or de toute façon.
Ils sont dans la MRC qui s'appelle la Vallée de l'or.
Ben voilà.
Donc,
Malartic, c'est pamphlétaire, mais c'est ce qui est dit là-dedans. On a beau dire que, est-ce que c'est une prise de position, c'est assez révoltant. Si je me demande qu'est-ce qu'on pourrait dire en contrepartie pour atténuer ce qui est dit dans Malartic. Le réalisateur Nicolas Paquet sera à 15h samedi au cinéma Cartier pour présenter son film. Oh. Son documentaire qui arrive en salle demain sort au cinéma Cartier et au cinéma Le Clap à deux endroits.
Tout à fait. Deux endroits pour un documentaire.
Quand même. Voilà. Profitez-en pendant qu'il passe si c'est le genre de sujet qui vous interpelle. Mot de la fin, M. Bérubé, avez-vous une suggestion?
Moi, j'ai terminé. Je ne sais pas si je radote ou si je vous en avais déjà parlé. Un livre que vous auriez sûrement beaucoup de plaisir à lire, Traité de paix pour les femmes aliens de Geneviève Morin.
Dont le sujet est?
Le sujet est une rupture amoureuse et... les films Alien, toute la série des films Alien, c'est que Geneviève Morin, qui est humoriste, scripteur, elle a une maîtrise en littérature, elle a fait sa maîtrise sur les films Alien et sur l'aspect très féministe qu'il y a à l'intérieur de ça. Parce que si vous regardez Alien 1, notamment, et que vous vous dites le nombre de fois que personne écoute Ripley, là, le personnage de Sigourney Weaver, là, si tout le monde avait pris le temps de l'écouter quelques secondes, il y a rien. Il y a à plusieurs, les gens ont plein d'opportunités. En tout cas, donc, ça, c'est son thème de maîtrise. Et Geneviève Morin, comme personne, ça a été la conjointe de Julien Lacroix pendant de très, très longues années.
Oh, OK.
Le roman qu'on nous présente est évidemment un roman de rupture
teinté
amoureuse,
par ça.
Mais on reconnaît peut-être un peu des éléments biographiques là-dedans. C'est excellent.
En 30 secondes, Luc.
Oui, cette semaine, je suis allé voir, j'ai dérogé un peu une fiction, mais basée sur des événements
réels.
Soleil à Atikamekw. Fort intéressant.
Tourné à Manawan.
Oui, et puis en Atikamekw avec sous-titres. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ce
une
film.
Une autre histoire révoltante survenue, bévue policière, en fait une enquête bâclée survenue à la fin des années 70.
Exactement.
Alors que quoi, 5 autochtones ont perdu la vie.
Mais c'est pas un documentaire, c'est une fiction.
C'est une fiction, mais qui est basée sur des faits, sur des témoignages, sur des rêves, l'imaginaire.
S'il y a des gens qui ont un petit a priori avec la langue autochtone, même sous-titrée, est-ce que...
Aucun problème.
Comment on brise cette
priori-là? C'est la qualité du film. Ouais. Bon, Soleil Atikamekw encore en sang. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve 18h la semaine prochaine pour Fahrenheit 89.
Merci, Pierre Blais.
Merci, Monsieur Blais.
Fahrenheit 89.1 vous a été présenté par le Cinéma Le Clap, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation sur leclap.ca. Bon cinéma!
À vos marques, soyez prêts, misez! C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Abonnement VD, hébergement, œuvres d'art, certificats cadeaux, resto-bar, loisirs et plus encore. Deux options vous seront proposées, soit la mise instantanée ou la mise maximale. Découvrez tous les lots et misez dès maintenant sur macause.com/CKRL. Bonne chance! Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz et de la bossa nova avec Eliane Elias et Mark Johnson. When I look in your eyes, I see the two of us. Mariant ses racines brésiliennes, sa voix et son jeu de piano dans un style unique, la talentueuse artiste vient partager son répertoire en compagnie du respecté contrebassiste. Popos, bangos, you're holding jingle dingle. Popos, bangos, bright shiny beads. Ne ratez pas cette performance en duo attendue pour les deux artistes récipiendaires de prix Grammy. Le 4 mai, soyez aux premières loges pour le jazz brésilien d'Eliane Elias et de Mark Johnson au Palais Montcalm.
Envie de boire un café de spécialité, fraîchement torréfié? Le Café La Maison Smith est un micro-torréfacteur de la Ville de Québec qui vous offre une gamme de cafés distingués et riches en saveurs pour faire vos cafés à la maison. À Limoilou, l'option vrac est maintenant disponible. Cette succursale est un milieu de vie intégré incluant des espaces multi avec ses salons de coworking, la buvette et l'aire de torréfaction. Allez vivre l'expérience chez Smith ou rendez-vous au smithcafé.com.
Deux décennies de carrière auront permis à Kate Kuna d'assembler une œuvre musicale où l'insolence nourrit la beauté. Son dernier album double, Métastase, est acclamé par la critique. Il est sans équivoque l'un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus agiles de sa génération. Voyez Kate Kuna sur scène le 10 mai prochain à l'Impériale Belle de Québec. KateKuna.com pour